Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Difior et prise de son assurée ce soir par Thibaut Nocimben, réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Muriel Joudet, Antoine Guillot et Jean-Christophe Brianchon, notre affiche Détroit de Catherine Bigelow, l'atelier de Laurent Canté et Kingsman, le cercle d'or de Matthew Vaughn. Présent également Boris Pinot qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, qui se tient du 19 au 22 octobre au Grand Palais à Paris. D'abord, un petit point santé. Bon, Boris Pinot, ça va pas mieux. Hein. Vous toussez beaucoup, beaucoup. Il faut quand même soigner ça. Arrêtez de sortir trop tard le soir. Mais Antoine Guillot, il fait très très chaud aujourd'hui à Paris. Vous êtes très couvert. Je suis un peu inquiet.
Oui, j'ai pris un petit refroidissement. Donc là, j'attends de me réchauffer avec vous. Et très vite, je vais me déshabiller. Vous allez voir.
Vous allez très vite enlever cette énorme écharpe, cette veste, ce pull. Demain, vous pourrez faire plan large.
Oui, certainement.
Le sommaire.
Eh bien, nous allons parler d'Eisenstein et de ses fantômes, c'est-à-dire pas les films qu'on connaît, mais tous les films formidables qu'il n'a jamais réalisés.
Et c'est à quelle heure ?
Et c'est à 14h.
Il faut le rappeler. Muriel Joudet, ça va ? Vous avez l'air en forme.
Oui, voilà.
Bon, Jean-Christophe Brianchon a un accident capillaire. Ça, c'est autre chose. On peut pas.
En tout cas, j'ai une santé d'enfant. Là. Je suis
c'est
vraiment
vrai
en pleine forme.
Ah, mais les enfants, vous savez, sont souvent malades.
Non, pas moi.
N'oublie pas de te couvrir, mon petit Jean-Christophe. Entrons dans cette dispute après ce point santé toujours important avec le nouveau film de Catherine Bigelow, qui est quand même l'une des cinéastes les plus passionnantes d'Hollywood, en tout cas selon moi, mais je ne suis pas tout à fait seul. Mais ça fait longtemps, depuis Les Frontières de l'Aube, ça remonte quand même assez loin. Elle revient après Zero Dark Thirty et Des Mineurs. Elle propose avec Détroit de s'intéresser une nouvelle fois à l'histoire contemporaine des États-Unis, avec cette fois un retour plus lointain vers le passé. Été 1967.
I assumed it's about what went on at the motel.
What happened at the motel?
You don't know, I tell you. I was working security by Wisconsin. And on Tuesday night, we heard gunfire coming from the area near the Algiers. Police was there. There was a lot of shooting. When I went in there, three kids had been killed.
No. So they were killed right before you got there.
Sir.
You carry a 38, right?
A revolver. You carry a revolver.
I do have a 38.
You ever shoot anyone?
I didn't do it. Police.
Oh, here we go.
Here in Detroit, a city of war, violence continues.
We've made state police and National Guardsmen available.
I'm declaring a public state of emergency.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Police!
I'm just going to assume you're all criminals.
To anyone ever. Understand?
This city has problems. But change is coming.
I told you what I saw. I'm trying to help you.
They're kids. What's the matter with you?
You're gonna kill us, man.
I need you to survive the night. Survive the night. Survive the night.
Melvin, you wanna go home?
Yeah.
Détroit, ou Detroit, de Catherine Bigelow est sorti sur les écrans français ce mercredi. Il est sorti cet été aux États-Unis avec force polémique. On l'a évoqué ici, il y a peu de temps, on reprochait à Catherine Bigelow de s'emparer de l'histoire récente des Afro-Américains, elle, la cinéaste blanche de l'establishment. On mettait ça aussi en parallèle, rappelons-le, avec l'adaptation, enfin le remake qu'avait fait, une nouvelle adaptation des Proies par Sofia Coppola, qui avait évacué les deux servants domestiques esclaves de son récit, ce qui quand même, pendant la guerre de sécession dans un état du Sud, n'était pas sans poser tout à fait problème, elle disant, oui, je traite pas de ça, donc je préfère ne pas mettre les personnages, qui est quand même une défense un petit peu curieuse. Catherine Bigelow s'est exprimée à très nombreuses reprises sur sa position, heureuse du débat finalement que ce film a suscité. On resitue un petit peu, Antoine Guillot, était 67, Détroit, des émeutes.
Des émeutes ont lieu un peu partout aux États-Unis à ce moment-là, côte est comme côte ouest, et à Détroit, la cité est sous tension. D'ailleurs, le film nous explique un peu les origines dans le générique.
Ça commence par un dessin animé.
Dans le générique de début, non, oui, ouais. Ce sont des peintures d'un peintre naïf américain. J'ai noté ouais. Son nom. Il s'appelle Jacob Lawrence, et donc il a raconté en peinture toute l'histoire d'immigration intérieure des Noirs aux États-Unis. Comment après la fin de l'esclavage ils sont montés du sud pour aller vers le nord et devenir de la main d'œuvre industrielle pour le nord. Donc c'est ce que ça nous raconte. Et puis un petit mot qui nous dit les choses allaient devoir changer, rester à savoir comment et quand. Donc est-ce que les choses ont changé à cette époque-là vu ce qu'on voit et ce qu'on connaît des États-Unis aujourd'hui et qui est le contexte dans lequel Catherine Bigelow réalise ce film et elle l'a sans arrêt en tête. Elle filme 1967 pour raconter les violences policières et le système qui permet ces violences aujourd'hui. Donc, petit point d'histoire, des GI de retour du Vietnam fêtent dans un bar clandestin leur retour. Et puis, des centres de police violentes comme à l'accoutumée, sauf que là, pour une fois, ça ne passe pas et ça provoque des émeutes dans la rue qui embrasent toute la cité. Le président Johnson...
En tout cas, les quartiers noirs de la cité.
Oui.
Et le centre-ville, donc, voilà. À ce moment-là.
Oui, puisque la ville est partagée en deux par la 8 Miles, voilà, tout ça.
Il faut aller voir Eminem.
La topographie est toujours importante dans les villes américaines. Et toujours est-il que Lyndon Johnson, le président de l'époque, complètement dépassé, envoie la garde nationale et donc l'armée pour rétablir l'ordre dans la ville. Donc ça, c'est le contexte général que nous expose assez brillamment Catherine Bigelow dans les 20 premières minutes du film, avec des effets, elle aime bien faire à la manière d'eux aussi quand elle tourne Catherine Bigelow. Donc là, elle est à la manière des documentaires de l'époque, des newsreels, c'est haché, ça va dans tous les sens. On sent qu'il y a de la... Je ne sais pas si elle a tourné le film en pellicule ou s'il y a un travail sur le numérique qui le fait ressembler à de la pellicule, mais ça permet d'incorporer dedans des images d'archives, des vrais newsreels tournés dedans, et la jonction se fait extrêmement bien. Et là, tout d'un coup, on a l'impression d'un film extrêmement ambitieux, passionnant, qui porte bien son titre. C'est-à-dire qu'il s'agit de filmer la ville de Détroit et de montrer... Il n'y a pas de personnage principal, ou en tout cas, on ne le repère pas immédiatement pendant ces 20 premières minutes. Et là, on se dit... Waouh, ça va être un film qui va penser la ville, qui va montrer ses émeutes et qui va essayer de filmer le système. Après, ça se complique, parce que sans doute que Catherine Bigelow avait anticipé les critiques qui allaient lui être faites, d'être une femme blanche riche de l'establishment, comme vous l'avez dit, qui va filmer des pauvres noirs en train de subir la violence raciste. Donc, on va s'assurer, et sans doute que nous ne sommes pas le bon public, en tout cas le public auquel elle pensait à ça, et plus certainement qu'elle veut parler au public blanc qui ne veut pas voir ce qui se passe de l'autre côté de ces rues qui symboliquement coupent les quartiers. Public blanc, je vais vous faire vivre dans la peau d'un noir maltraité.
Public blanc américain.
Public blanc américain, donc vraiment celui auquel elle s'adresse. Je vais vous faire vivre dans la peau d'un noir maltraité par la police. Donc on va, plutôt que de prendre un émeutier, par exemple, on aurait pu choisir une des personnes qui casse les vitrines, qui pille, qui est révoltée, qui est scandalisée, etc., et qui va se retrouver pris dans cet engrenage. On va prendre des gens qui sont complètement en dehors du coup. C'est-à-dire ce chanteur de soul qui manque de peau, venait de signer avec la Motown.
Allait signer, voilà.
Et puis, paf, au moment où il a passé sur la scène du Fox Theater, non, faut évacuer le théâtre parce qu'il y a ça. Donc, il va se réfugier dans le Ladger's Motel où il n'y a que des gens qui ne participent pas aux émeutes, c'est-à-dire qu'ils sont, là en train de faire la fête. Alors, elle a énormément enquêté, hein, comme c'est toujours avec Mark Ball, qui est
son
scénariste depuis Des Mineurs, il fait une énorme enquête dessus. Donc, il s'avérait que dans ce motel, il y avait aussi deux jeunes filles blanches, ce qui permet aussi l'identification. C'est un fait avéré, mais tellement sur le fait.
Mais l'une des deux était sur le tournage du film.
C'est du côté cinématographique, ça permet l'identification du public blanc. Donc, c'est bien aussi. Et là, on va les confronter à un... Et alors là, c'est vraiment le moment central du film. Je crois que ça doit durer une heure de huis clos dans cet hôtel. Un policier sadique, dont on a montré au début que pour lui, ces émeutes, c'est un formidable terrain de chasse, parce qu'enfin, il pouvait tirer sur les gens sans se faire trop embêter. Oui, mais les Noirs sont des gens, Arnaud Laporte.
Non, mais pour lui, c'est pas sûr. Voilà. Non, mais il tire pas indistinctement sur les gens.
Mais le film travaille ça, justement. C'est que pour lui, les Noirs ne sont pas des gens. Et
c'est,
le film,
c'est pour ça que je le
sans
disais.
Arrêt, nous ramène au fait. Et je ne vous ferai aucun procès d'attention.
Ouais, non, mais
que nos auditeurs
se rassurent. Méfiez-vous, vous savez comment on peut entendre de travers.
Se rassurent.
S'il vous plaît.
Mais Catherine Bigelow va justement sans arrêt nous montrer ces gens-là sont des gens comme vous. Mais le problème de les montrer face à un flic raciste et méchant, alors qu'elle montre qu'il y en a d'autres qui sont gentils, qui sont quand même un peu embêtés par ce qui se passe dedans, ça limite considérablement la portée de son propos, qui était celle des 20 premières minutes, où tout d'un coup, ça devient un film d'horreur avec des gentilles personnes confrontées à un méchant sadique.
Bon, Muriel Joudet opine.
Oui, parce que le film est passionnant dans le discours, cette débauche de discours qu'il produit. Moi, ça me rappelle un peu le cas d'American Sniper, qui était bien plus ambigu que ça, mais c'est toujours passionnant. Moi, je suis à deux doigts de perdre des amis parce qu'on s'arrache les cheveux sur Détroit. Qu'est-ce qu'il
déjà
faut
que
penser.
Vous en avez peu.
Bah oui, déjà, j'en ai deux. Et donc,
n'en perdez plus.
et notamment dans cette critique américaine qui est plutôt globalement indignée, parce que donc, est-ce qu'une femme blanche peut représenter cela, la souffrance afro-américaine, et aussi dans cette complaisance qu'elle met à filmer la souffrance dans au moment de cette longue scène dans le motel.
Enfin, vous dites complaisance, ça c'est votre sentiment.
Non, c'est dans la critique américaine qui trouve Adrienne Brody. Richard Brody.
Richard
Brody qui parle de pornographie.
Oui, Brody dit beaucoup de choses. Enfin, écrit beaucoup de choses.
Évidemment, bien sûr. Enfin, il y a une sorte d'indignation comme ça, facile dans la critique et complètement dans le public américain qui paraît un peu suspect du côté de la critique française. Et en voyant le film, en voyant sa médiocrité, moi, je pourrais presque me rallier à ces indignations.
Heureusement que je suis assis.
Au sens où le film est tellement, tellement vide et tellement plat à mes yeux que toutes les indignations peuvent être légitimes. On peut poser toutes les questions à ce film, et je me pose encore la question de la motivation de Bigelow, la motivation politique, esthétique, intellectuelle. Quel intérêt elle a eu à faire ce film, car je n'y vois rien.
C'est-à-dire vous êtes sérieuse ?
Je vous assure, j'étais...
de la provocation.
Non, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon, à un moment, tout ce qu'elle essaye de poser va cheminer vers une de ses obsessions personnelles. C'est ça qu'on appelle un auteur. Quelqu'un qui prend un thème et le ramène à quelque chose de très intime, et ça n'arrive à aucun moment. Ce qui m'a gênée, c'est de ne voir aucun personnage exister.
Mais sans quoi les obsessions de Catherine Bigelow pour vous ?
La violence américaine, c'est-à-dire ce que dit David Simon, c'est-à-dire le...
Et vous l'avez pas vu dans Détroit ?
Je n'ai pas l'impression qu'elle le tire vers quelque chose de très intime. C'est-à-dire que je ne vois pas de regard, je ne vois pas d'intelligence du regard. Plutôt, je vois un regard, mais pas d'intelligence du regard. Et je suis frappée par ce côté assez désinvesti du film. Encore, je suis moi-même surprise. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Bigelow. Et là, ça m'a vraiment frappée. À un moment, je me suis dit, bon, elle essaye de faire quelque chose à la David Simon, comme dans The Wire, filmer cette violence-là du point de vue des structures, puisque aucun personnage n'existe. Mais David Simon, dans The Wire, fait exister les personnages et les structures.
Oui, il a quelques dizaines d'heures pour le faire. Aussi.
Oui, bien sûr, mais on sent qu'elle est inspirée.
Elle joue vraiment là-dessus, David Simon,
bien
sur la durée.
Mais elle reprend un peu on sent qu'elle est inspirée par The Wire, en tout cas que ce film se fait bien après The Wire et garde quelque chose de ça. Et ce qui m'a gênée, c'est que tous ces personnages noirs ne s'individualisent qu'à partir du moment où ils souffrent. C'est-à-dire que c'est une vision extrêmement doloriste de la communauté afro-américaine. Pour moi, je ne vois vraiment que des clichés jusqu'au moment où on les voit à partir du moment où le snuff movie commence. Là, ils existent, là, ils s'individualisent. Et Bigelow profite de cette vision doloriste pour ramener quelque chose d'extrêmement sadique. C'est ce que disait Antoine sur toute cette partie dans le motel, où pour moi, c'est vraiment, on est dans le registre du film d'horreur. C'est-à-dire que la question que pose cette scène, c'est qui va en sortir vivant.
Oui.
Et c'est une question qui appartient au film d'horreur, et pour moi, donc qui appartient au jeu. on ne peut pas créer du suspense sur cette souffrance-là. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre, et Richard Brody en parle, de la liste de Schindler. C'est-à-dire, Spielberg crée du suspense dans les camps de concentration, et je trouve qu'il y a quelque chose de que ce suspense n'est pas rattaché à une question morale, à un jugement moral de la part des personnages. Voilà ce qui me gêne.
Bon, j'ai envie de commenter chacune de vos phrases, parce que vraiment, faire le rapprochement avec la liste de Schindler me paraît pour le moins problématique, mais bon, c'est Jean-Christophe Briançon qui a la parole maintenant.
Bah, je vais peut-être vous décevoir parce que je vais
abonder dans le sens de... Vous ne décevez jamais, Jean-Christophe.
C'est gentil. Je vais abonder dans le sens de Muriel. Moi, je trouve que ce film n'est absolument pas ce qu'il devrait être ou ce qui semble être au départ, puisque comme le dit Antoine, effectivement, au départ, on a le sentiment de quelque chose qui va être relativement ambitieux. Cette ambition qui se résume par cette phrase inscrite sur l'écran, il allait falloir que quelque chose change. Mais la question était de savoir quand et comment. Je trouve ça intéressant et ça pouvait évidemment nous amener à aujourd'hui, éventuellement. Après, ça nous y amène plus ou moins, puisque justement le film est tellement vide, à mon sens également, qu'il ne répond absolument pas à cette question. Et on peut finir par se dire que le fait de ne pas y répondre consiste à considérer que rien n'a changé depuis 1967. Donc éventuellement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle parle d'aujourd'hui. Ensuite, de cette violence de l'Amérique-là, moi je n'ai pas vu grand-chose, si ce n'est tous les stigmates, on va dire, cinématographiques et esthétiques qu'on peut attendre d'une bonne production hollywoodienne. Donc bon, alors là ça se résume en l'occurrence à quelques stigmates. Donc il y a des postiches, des costumes pas de def, et puis une image un peu patinée pour nous montrer qu'on est en 1967. Il y a des gens qui souffrent, il y a un policier méchant, un policier gentil, et puis au milieu de tout ça, effectivement, tout est fait pour que chacun d'entre nous puisse se retrouver dans quelqu'un ou dans quelque chose. Sauf qu'in fine, rien n'est fait d'autre que de nous montrer le réel, que de nous montrer l'existence de cette histoire. Ce qui déjà est effectivement salvateur, il faut que ce soit fait, puisque évidemment, il ne faut pas oublier. Mais après, on parle d'un geste d'artiste, d'un geste de cinéma, et montrer le réel, a priori, pour moi, se contenter de montrer le réel ne suffit pas. Et en l'occurrence, là, je trouve qu'elle ne fait que de nous montrer le réel et de nous montrer l'existence de cette histoire. Donc, je suis content d'avoir appris peut-être quelques détails de cette histoire, mais j'estime pas avoir vu un geste de cinéaste à proprement parler. Pas un geste d'auteur, en tout cas, comme le disait Muriel.
Alors, geste d'auteur, c'est compliqué concernant Catherine Bigelow, parce que sa filmographie est vraiment très particulière dans le paysage du cinéma américain contemporain. Moi, je lui rends grâce absolument d'avoir pris en charge cette histoire. Et il faut effectivement pas oublier ce que dit Antoine Guillaume, que ce film était destiné au public, on va dire, blanc américain. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas rencontré du tout, vu les chiffres d'entrée en salle sur le territoire américain, où ça a été un bide quand même assez absolu.
Y compris dans le public noir, qui ne voulait pas se voir représenté comme ça.
Qu'il a rejeté aussi, enfin, c'est toujours pareil, sans l'avoir vu. Bon, c'est toujours le même problème, dès qu'on est dans le procès d'intention, il faut aller juger sur pièce. Mais je ne sais plus par quelle boule prendre tellement vous paraissez critique par rapport à ce film de Catherine Bigelow. Évidemment que ça parle d'aujourd'hui. Black Lives Matter, les vies noires comptent. On montre que ça fait longtemps qu'elle ne compte pas, que ça s'origine. Enfin, ça part de cette toile de Lawrence jusqu'à 2017. Mais il y a cette scène presque centrale qui est le point de bascule du film où un des noirs habitant le motel veut essayer de faire comprendre à une jeune fille blanche ce que c'est que d'être dans la peau d'un noir, et donc où il va la braquer avec un pistolet qui s'avérera être un jouet qui va déclencher les choses. Il ne faut pas que j'en dise beaucoup plus pour les spectateurs qui n'ont pas encore vu, mais il y a quelque chose d'une intensité et d'une dramaturgie qui pour moi est vraiment un geste de cinéma, un geste de mise en scène, un geste de scénario. Vous êtes d'accord, Antoine Guillaume?
Mais oui, mais parce que c'est le moment où le film aurait pu se rapprocher. Moi, j'ai beaucoup pensé évidemment à la pensée de James Baldwin par rapport à la question systémique. Et là, effectivement, il se passe quelque chose. Ouais. Mais il se passe aussi quelque chose à des moments où elle oublie d'être dans son cinéma d'intervention qui peut nous indigner et nous révolter. Et elle fait de très belles scènes. Les scènes du Fox Theater sont très belles.
Ouais,
ces moments où le quatuor de garçons chante en coulisses, se prépare pendant que des filles chantent sur scène.
Martin de Vandellas, carrément.
C'est extrêmement émouvant. Il y a une réflexion dans les thématiques, les obsessions personnelles de Bigelow. C'est est-ce que l'habit fait le moine, c'est une des les questions qu'il y a toujours chez elle. Alors, dans Des Mineurs, c'était incarné complètement, mais là, c'est le personnage de John Boyega, qui est une sorte de Sidney Poitier
franchement, il existe avant qu'il soit dans la
police, et qui est un personnage assez intéressant parce qu'il a ce visage lisse qui, en plus, maintenant est associé à Star Wars, donc il y a un côté très curieux de le voir ici, qui est lui un vigile, un petit gardien d'une boutique à côté pendant les émeutes, mais qui a un uniforme qui ressemble à la police. Donc il est considéré par les autres policiers. Le moment où, parce qu'il a un travail de jour, il n'a plus cet uniforme, il travaille à l'usine, là il est embarqué et traité comme tous les autres noirs de Détroit, c'est-à-dire comme pas grand-chose. Et là, il se passe des choses qui sont des vrais éléments cinématographiques. Mais c'est, encore une fois, c'est au nom de l'amour qu'on peut porter et que je porte au cinéma aussi, de Catherine Bigelow, que je suis un rien déçu par ce film, mais sans doute parce qu'il est trop contraint et elle s'est elle-même contrainte dans les critiques qu'on allait lui faire et qu'on n'a pas manqué de lui faire.
Je suis d'accord là-dessus. Elle est très empêchée, mais je n'y vois pas en tout cas l'ineptie, pour résumer vos propos, que vous y voyez. Boris Pinault, quelques commentaires de nos auditeurs et auditrices.
Pour le coup, sur Facebook, on est très enthousiaste. Bobo Léon salue un très grand film. Et la cinéphile Violette Villard écrit, elle, sur une mise en scène viscérale, pulsive, fleur de visage, multipliant les angles avec la signature inimitable de Bigelow, ses scènes de course, combat mêlant chaos et confusion du grand cinéma de l'émeute.
Les 20 premières minutes, entièrement d'accord.
Ah bah, elles sont magistrales, non? Les 20 premières minutes, Muriel Joudet?
Ça va encore. Mais le film dure 2h20.
Oui, le film dure 2h20.
Ouais. Moi, j'aime les trois parties.
Hein. Je suis comme Antoine, j'ai vraiment pensé au film de Raoul Peck sur James Baldwin et à la pensée de James Baldwin, parce que, en fait, pour moi, la question de la communauté afro-américaine au cinéma consiste à se dire, est-ce qu'elle a une place dans la fiction et dans l'imaginaire? Et je rajouterais, autrement qu'en tant que victime. Et Bigelow répond, non, la communauté afro-américaine, c'est les faits, c'est le procès verbal. Et quand je pense à des films comme Get Out ou Django de Tarantino, je me dis, là, on part d'une base, c'est-à-dire la communauté afro-américaine a souffert, est victime, mais on transfigure ce constat-là. On le transfigure, on l'emmène quelque part, mais on l'emmène dans le cinéma.
Ce ne sont pas les mêmes projets, vous ne pouvez pas comparer des projets qui ne sont pas comparables.
Je trouve qu'il n'y a pas du tout d'imaginaire, c'est bête à dire, mais il n'y a pas d'imaginaire dans le film de Bigelow. Je ne vois que des faits, et puis quand il y a un trou dans les faits, et bah, elle va remplir avec ce qu'elle peut, mais je ne vois pas du tout de fiction. C'est très bizarre, j'utilise des mots un peu bêtes, mais c'est vraiment le sentiment que ça m'a fait, c'est pour ça que ça m'a vraiment indigné.
C'est pour ça que c'est réussi alors, c'est parce qu'il n'y a pas de fiction, je suis d'accord avec vous Muriel. Jean-Christophe Brianchon.
Non, mais moi, je suis assez d'accord, encore une fois, avec Muriel, et je trouve que si les 20 premières minutes sont intéressantes, évidemment, comme on se l'a dit, le reste du film ne suit pas, si ce n'est effectivement dans ces scènes de huis clos, pendant cette heure de huis clos, qui effectivement est intéressante, mais nous ramène quand même, en fait, tout à fait en dehors du film, puisqu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'est le film. Enfin, en tout cas, elle est, comme on le disait tout à l'heure, elle se résume à une belle scène de film, peut-être, oui, de snuff movie ou de film d'horreur, je sais pas si c'est le bon mot, mais...
C'est pas vraiment un snuff movie, parce que je vous rassure, les comédiens ne sont pas morts.
Oui, a priori, ça se termine pas de la même manière. Enfin, mais bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de ça, et donc, bon, les quelques instants que j'ai trouvé intéressants dans ce film, j'ai le sentiment que ce n'est pas les instants qui correspondent à ce que voulait faire Catherine Bigelow.
Alors, oui, là, elle a une situation générale et elle zoome sur un fait particulier documenté, en plus, effectivement, en recueillant le témoignage de trois des protagonistes principaux de cette nuit d'horreur, parce que oui, film d'horreur, parce que c'est une nuit d'horreur. Enfin, je pense qu'il y a une adéquation absolue entre ce qu'elle veut raconter et la façon dont elle le raconte. Et le fait de zoomer sur une situation, on voit bien que à travers ce huis clos, elle parle de l'ensemble du pays. Donc, ça, c'est un procédé scénaristique comme un autre. Alors, elle peut choisir un autre événement dans un autre lieu. Celui-là est quand même particulièrement emblématique.
Mais oui, mais de ce fait, elle échoue, ou en tout cas auprès de certains spectateurs que nous sommes. C'est-à-dire, la métonymie ne fonctionne pas simplement parce qu'elle montre un système qui n'est pas à remettre en cause tant que ça, qui permet à des flics sadiques de faire leur monstruosité, mais qui n'est pas un ensemble général à remettre en cause, d'une certaine manière. Le scandale, c'est que ce monstre existe et qu'on lui dit, oh là là, c'est pas bien d'avoir tué quelqu'un, mais va quand même dans la rue remettre de l'ordre. Donc on se dit, leurs patrons sont un peu inconséquents. Mais le racisme général du système, le fait que la majorité de la police est blanche, qu'il y ait cette ghettoisation, etc., peine à exister à travers cette petite histoire de huis clos qui, encore une fois, est mise en scène de manière tout à fait efficace et propre au canon du genre. Mais en effet, s'appuyant sur des faits véritables, ça peut créer un certain malaise.
Bon, allez voir par vous-même, faites-vous votre opinion en allant voir Détroit de Catherine Bigelow, qui est sortie sur les écrans mercredi dernier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma avec le nouveau film de Laurent Cantet, L'Atelier, avec Marina Foïs qui incarne ici Olivia, une romancière connue qui mène un atelier d'écriture à La Ciotat durant l'été avec des jeunes en insertion.
Mais allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave.
Ben, pourrait y avoir un meurtre.
Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début.
C'est obligé qu'il se passe ici, le roman.
L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat.
Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous ?
J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout.
Alors c'est à nous, nous nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui aujourd'hui est mise en danger par ce métissage galopant.
Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique.
Oh ta gueule. Il ne pensait plus. Il a ouvert son sac, a sorti une calache, et avant que personne ne puisse réagir, il a tiré. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer.
Mais putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros?
Tu parles comme ça! Ferme ta gueule, arrête de sourire!
Au risque de vous choquer, je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit.
C'est raciste, vous le défendez!
Non, je le défends pas. J'essaie juste de comprendre. Au fond, je suis persuadée que t'es beaucoup plus intelligent que ce que t'essaies de faire croire.
Ça, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur.
L'Atelier de Laurent Cantet et une fois encore un Antoine dans le cinéma français. Ça fait longtemps que ça dure, hein, Antoine Guillot.
Tous les garçons s'appellent Antoine.
Voilà, et ben effectivement.
Au cinéma en tout cas.
Ça continue encore et encore. Ça, c'est Muriel Joudet qui va commencer sur l'Atelier.
C'est un film très bizarre, mi-ennuyeux, mi-captivant. C'est vraiment les deux. Pendant deux heures, j'oscille entre les deux, qui prend son temps pour nourrir une sorte de tension, comme ça, vraiment, qui est très patient, qui nous berce comme ça dans quelque chose d'à la fois doux, en même temps, on sent que la violence est en dessous et qu'elle va bientôt surgir. Et donc, c'est une heure et demie de rétention. Et on attend tous, à un moment, la débauche de violence qui pulse sous le film pendant une heure et demie.
Vous n'en dévoilerez pas trop.
Non, pas du tout.
Attention, ne divulgâchons pas. Non, je me fais déjà engueuler sur Twitter, alors je préviens.
Non, je fais très attention. Et moi, ce qui m'a le plus passionnée de bout en bout, c'est vraiment ce duo entre cet écrivain de romans noirs et cet élève.
Incarné par Mathieu Lucci.
Voilà, qui est très bon, qui m'a fait penser à Adèle Exarchopoulos.
Dites-le encore, pour voir.
Adèle Exarchopoulos.
Ah ouais, voilà. Vous aurez peut-être un thé, vous. Exarchopoulos, ça suffit.
Ah d'accord, pardon. Vous savez que j'ai des problèmes avec les noms un peu longs.
Ouais, Adèle, quoi.
Voilà, Adèle, la vie d'Adèle, pour sa façon d'apparaître, d'apparaître progressivement à l'écran. Au début, on n'y croit pas, puis au bout d'un moment, on est vraiment captivé. Et donc, ce duo qu'ont constitué cet écrivain, qui est à la fois très bienveillante, ce qui surplombe vraiment de sa bienveillance ses élèves, qui se donne bonne conscience en animant cet atelier, qui est aussi un peu bien pensante. On le voit à un moment lorsqu'elle s'adresse à un journaliste et qu'elle essaye de résumer ce qu'elle fait là. Donc vraiment le prototype de l'écrivain parisienne. De plutôt de gauche qui vient prodiguer ses conseils à des jeunes en difficulté, et puis lui, l'élève turbulent, au discours un peu inquiétant, et progressivement cette relation va basculer dans quelque chose, le rapport va s'inverser, c'est-à-dire qu'elle va être complètement fascinée par lui, enfin même si la fascination est partagée entre les deux, et on va comprendre que lui est beaucoup plus intelligent qu'elle, je trouve, à un moment il lui donne des conseils sur son écriture, et on va comprendre plus tard que ses conseils vont la travailler et qu'elle veut retravailler son manuscrit. Et cette tension qui naît entre eux est sexuelle, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils vont, à tout moment, ils peuvent se sauter dessus, qu'ils ont à plusieurs fois l'occasion de le faire, mais qu'ils ne le font pas. Et c'est ce qui... Non, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a vraiment une tension sexuelle qui, moi, est ce qui m'a le plus saisie dans le film. Et donc, on est dans cette attente de quelque chose qui va exploser, qui finit par arriver. Et à partir
pas, de, pas trop en dire.
Non. Mais à partir du moment où ça arrive, moi, je ne, voilà, mon attention retombe et je me demande ce que Laurent Cantet essaye de me dire. Est-ce que lui-même sait ce qu'il veut nous dire? Et j'ai le sentiment qu'au bout d'une heure et demie, le film n'arrive pas à retomber sur ses pattes et enchaîne les scènes comme le film est embarrassé de lui-même.
Alors vous demandez ce soir pourquoi les cinéastes font les films qu'ils font. Hein. Ça fait deux fois, on verra. Pour Matthew Vaughn, je suis un peu inquiet. Jean-Christophe Briançon sur l'atelier de Laurent Cantet.
Bah, là, pour moi, c'est assez clair. Il le fait pour ouvrir une perspective, simplement nous ouvrir une perspective. Et c'est ce qui, la première phrase du film, c'est au début, il n'y a rien. Et ça représente exactement ce qu'il veut faire. Il part du rien, qui est le rien dans lequel cette jeunesse est tombée, pour ouvrir quelque chose et nous laisser nous débrouiller ensuite. Et là, en l'occurrence, il le fait, je trouve, de manière particulièrement... Vous parliez d'ennui et de fascination. Moi, je trouve particulièrement fascinante et particulièrement habile. Puisque, bon, au départ, moi, j'y allais un petit peu à reculons, parce qu'on peut... voilà, on se retrouve face à un cinéma, ce cinéma social, à cheval... voilà, à cheval entre le social et l'auteur et le film populaire, dont certains reprochent qu'il soit sponsorisé par France Inter et soutenu par Télérama. C'est un peu l'archétype du film social français, bon. Donc j'allais un petit peu à reculons parce que moi-même je suis pas nécessairement client de ça. Et je me suis retrouvé face à effectivement un geste fascinant, aussi bien par la beauté de sa forme que par le foisonnement de son fond. Je trouvais que certains plans qui sont pas particulièrement magistraux, certains plans sur les calanques de Marseille, sur ce jeune homme qui nage dans ces calanques, particulièrement beau et efficace parce qu'évidemment ce n'est qu'une métaphore un petit peu lourdingue, mais pour autant très belle de cet enfant qui se démène un petit peu dans le monde et qui éventuellement s'y noie et finira peut-être par s'y noyer, on ne sait pas. Voilà, j'ai trouvé ça absolument, absolument magnifique. Et ensuite, sur le foisonnement de ce fond, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement un nombre de pistes incalculables qui étaient ouvertes. Effectivement, alors, c'est à la fois un film sur la jeunesse et un film sur l'artiste, puisqu'il y a cette jeunesse qui tente d'écrire sa vie plus ou moins aidée par quelqu'un qui, un petit peu à l'image de l'institution française, est absolument incapable de l'aider, cette jeunesse. Et en parallèle de ça, on suit à travers eux et à travers elles le cheminement d'un artiste qui cherche à écrire, et peut-être aussi le cheminement de ce film qui lui-même se cherche un petit peu, ce réalisateur qui cherche un petit peu sa fin sans nous la donner, puisque finalement il a eu l'habileté et peut-être l'humilité de justement ne donner aucune leçon, si ce n'est peut-être par l'avis qui sera donné à travers un texte qu'il a écrit de ce jeune homme sur les raisons de son désarroi, ce qui arrive plutôt à la fin du film. Donc là, peut-être qu'il y a une forme de leçon, mais pour autant une grande humilité aussi, qui fait de ce film, pour moi, un des grands films de la rentrée.
Antoine Guillot, sur l'atelier.
Alors c'est amusant de le mettre en regard avec le film de Catherine Bigelow, parce que c'est... encore une fois, un film qui veut faire de la fiction avec du réel et qui se demande comment représenter, embrasser, interroger des questions d'aujourd'hui. Et le film a été tourné juste après les attentats de Paris. Les attentats de Nice sont arrivés aussi à un moment dedans. Enfin, il est habité par ces questions-là et par des questions qui habitent Laurent Cantet depuis longtemps, qui est une rupture de la transmission. C'est-à-dire quelque chose qui ne se passe plus entre une génération qui aurait été la génération politisée d'une certaine façon, et la jeunesse à la fois jouissive, individualisée, perdue, très isolée dans des images. Le film commence avant, au début il n'y a rien, et qui commence par une longue séquence de jeux vidéo d'un personnage qui est
seul,
très costaud, qui tire des flèches en l'air. Il y aura une scène qui répondra plus tard dans le film, et le tout en scope. C'est très étonnant que toutes ces images carrées qu'on va voir dans le film, qui peuvent être des publicités pour l'armée de terre, qui ressemble à des jeux vidéo aussi, des pastilles sur internet pas très convaincantes par le jeu de l'acteur, d'une sorte de décalque d'Alain Soral sur le
c'est
discours.
C'est pas le meilleur choix de distribution.
Sur le discours identitaire, c'est un peu dommage, parce qu'on se dit, ah tiens, on est dans un film, parce que le reste étant, comme l'avait déjà fait plusieurs fois Laurent Cantet, et notamment dans son Palmé entre les murs, de prendre des comédiens qui ont été castés de façon sauvage, donc des comédiens non professionnels au moment du tournage, et de mettre en face, alors soit un écrivain, hein, qui était Bégodeau, soit ici une actrice confirmée, ce qui fait que le film est presque une mise en abîme des dispositifs de Laurent Canté avec cette autrice, autruche comme dit Florence Estac, qui est là avec toutes ses bonnes intentions, mais qui a déjà l'idée de ce qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle sait que voilà, il y a des chantiers, allez hop, on va faire un polar, vous allez mettre l'histoire des chantiers navals là-dedans, alors que les chantiers ont fermé avant même la naissance des jeunes qu'on voit ici, et que ce n'est plus du tout la question pour eux. Et Canté arrive lui-même, et je trouve ça très honnête de sa part, de se dire, voilà, j'arrive, je veux faire quelque chose, j'avais mes idées en tête, mais je m'interroge sur cette jeunesse, peut-être, comme on l'entend à la fin de la bande-annonce, parce que cette jeunesse lui fait peur, ou en tout cas qu'il ne la comprend plus, comme ses personnages ne l'ont jamais compris, mais il a l'honnêteté, je trouve, d'y aller. Et y compris en affrontant ce genre de personnage, Antoine, qui est dans une sorte de nihilisme, qui va se réfugier dans des idées d'extrême droite ou de massacre, où on ne sait pas les pistes vers où ça va pouvoir aller. Ça peut aller un peu n'importe où, mais il y va. Il s'interroge sur ce personnage. Alors après, quand il plaque de la fiction dessus, contrairement à vous, Muriel Joudet, je ne suis pas très convaincu par ce qui se passe entre Antoine et... Et le personnage de Marianne Foch, je trouve ça un peu plaqué, parce que d'un coup, il dit oui, il y a un besoin de fiction et on va le mettre. Et c'est comme si un des élèves de ce cours avait écrit l'histoire de manière un peu malhabile. La confrontation simplement entre ces jeunes qui ont apporté énormément d'eux-mêmes dans le film pendant les répétitions et Marianne Foch crée déjà quelque chose de suffisamment fascinant pour qu'on n'ait pas eu besoin d'aller dans cette fiction-là.
Oui, je trouve que c'est quand même la partie la plus inintéressante. Voilà. En effet, moi, j'ai guère ressenti, je vois bien ce qu'il essaye de faire, là, Laurent Canté, dans ce rapport des personnages, mais il n'y a vraiment tellement pas besoin de ça. Le jeune Mathieu Lucci, qui joue donc le rôle d'Antoine, a un rôle et un personnage extrêmement bien écrit. Je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de jeune homme dans la fiction, pas seulement française, avec à la fois cette densité, cette opacité, mais qui l'incarne magnifiquement avec vraiment... Il répond souvent qu'il n'a pas de problème, que tout va bien, il ne faut pas s'occuper de lui. Enfin, il y a quelque chose de très... une sorte de mutisme très, très inquiétant.
Et de rage fragile en même temps.
De rage fragile. Et puis, de temps en temps, il y a ces envolées, ces dérapages, on va dire ça comme ça, mais qui sont dans ces scènes de groupe très réussies. Encore une fois, moi, je retiens aussi la beauté formelle de certains plans. Et justement... qui sont disposés à des endroits bien particuliers du récit, parce qu'il y a il y a d'une part l'atelier, et puis d'autre part tout ce qui est hors l'atelier, hormis la dimension des deux éventuels amants qui m'intéressent moins. Mais c'est vrai qu'il y a des cadres absolument somptueux. Je pense à un moment où il y a son bras qui presque au bord écran avec la mer derrière. Enfin, il y a des choses formellement extrêmement belles, y compris une scène où il nage sous l'eau filmée d'au-dessus. Enfin, ce sont des plans. J'y pensais parce que Robin Campillo, comme depuis longtemps, est le co-scénariste de ce film, des plans qui manquaient pour moi à 120 battements par minute, qui rataient ces effets esthétiques. Là, je trouve que Laurent Canté, on voit que c'est un cinéaste qui a pas très bonne presse, entre guillemets, qui est pas très bien vu, me semble-t-il, dans le paysage cinéphile français, alors que... Et je trouve qu'il suit un chemin qui est quand même très remarquable.
Oui, mais parce que, comme dans ce film-là, il ose aller à l'aventure, même quitte à se planter.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que quand il fait Foxfire aux États-Unis, il se plante.
Mais il a eu envie de le faire.
Il fait une aventure extraordinaire parce qu'il va se confronter, là, encore une fois, à des corps qu'il ne connaît pas, à un paysage qu'il ne connaît pas et des histoires qu'il ne connaît pas. J'étais pas très convaincu par Retour à Ithac. Mais ce sont des films qui, d'abord, où chacun peut se retrouver à un moment ou à un autre dans la cinématographie de Canté, et parce qu'à chaque fois, il ose y aller, et moi je salue ça, c'est un vrai courage de cinéaste.
Je suis d'accord. Boris Pinault, quelques commentaires ?
Oui, Violette Villard à nouveau, qui se dit bluffée par l'aura des récits et l'alchimie du casting. Elle évoque une caméra désirante, sensible, épique en sotto voce, et à même de dresser une cartographie de la déshérence de ces jeunes, de leur ennui. Christophe Despaux, lui, est nettement plus remonté. Il écrit sur un film qui pêche par schématisme et flou généralisé. Il souligne cette impossibilité ontologique du cinéma français à représenter l'extrême droite autrement que par des fétiches. La gauchitude cantacampillesque pousse les hauts cris par le biais de son casting de jeunes effarés devant les raccourcis racistes du héros, mais scénariste et réalisateur n'hésite pas à mettre dans le même sac souverainiste et apprenti fasciste. La fin postiche confirme le but de ce cinéma militant malgré lui, rééduquer manu militari toute déviance au mépris de la dramaturgie la plus élémentaire.
Waouh ! Attention, ça vous fait rire, Maëlle Jodet.
Oui, non, mais qu'ils viennent. Enfin, il y a de la place dans le studio. Hein.
Non, mais ils sont dans l'écran pour l'instant et par la voix de Boris Pinot.
Non, mais ce qui est très curieux, c'est qu'il rend très désirable ce jeune homme dont les opinions politiques, je me garderai bien de les juger. Je ne suis pas d'accord avec.
On se gardera bien surtout avec, les comprendre,
avec l'auditeur,
les connaître.
Mais il est dans un flou lui-même, est dans un flou qui n'est même plus idéologique d'ailleurs. C'est chercher des débouchés à cet ennui, à cette énergie qui ne sait pas, pas où aller. Sauf que la façon dont Laurent Cantet le filme, ce personnage, est non seulement dans le respect, mais même dans le désir. Et je trouve ça. Là encore, gonflé de la part de
Jean-Christophe Briançon.
Oui, c'est là que c'est intelligent, je trouve. C'est que justement, il n'est pas du tout le nazi qu'on pense qu'il est. En fait, et comme peut-être tout nazillon qu'on peut croiser je ne sais où. En fait, c'est juste quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'il fait. C'est juste quelqu'un de perdu. Et cette perte est très très bien filmée, très très bien écrite. Et donc effectivement, alors peut-être qu'il y a... quelque chose du domaine de la posture ou bon, alors c'est peut-être fait de manière assez particulière, mais en tout cas je trouve que c'est très intelligent de pouvoir enfin considérer, justement contrairement à ce que dit notre auditeur, je trouve de considérer que d'aller au-delà du schéma et de la façon dont on considère habituellement la perte de ces gens-là. Là, on va bien au-delà. Effectivement, on arrive peut-être même jusqu'à éprouver du désir ou en tout cas une certaine fascination pour lui, pour sa manière d'être, pour sa perte, justement. Et c'est très intelligent, c'est très juste. Je pense qu'il y a aussi dans ce film quelque chose de l'ordre de comme le... Ça me fait penser au livre d'Alice Zeniter de l'art de perdre et de d'ériger la perte de soi et la perte d'une société... jusqu'au niveau d'art, jusqu'au rang d'art, et en tout cas de le pouvoir le considérer avec une certaine douceur, et je trouve que c'est très juste, très intelligent.
Vous préparez l'émission de la semaine prochaine, hein, avec le livre d'Alice Zeniter.
Entre autres.
Et puis une très belle scène, je voulais citer aussi parmi les scènes où la beauté formelle rejoint la question fictionnelle, même si c'est pas la séquence qui a davantage plu à Muriel Jodet. Je n'en dirai pas plus en disant que c'est une scène au clair de lune, et qui m'a rappelé certains plans de Pandora, d'Albert Lewin, qui filme vraiment sous le seuil, quasiment, on voit à peine, on est au bord comme ça d'une falaise, et je trouvais ça d'une beauté, et alors là, d'une tension qui n'est pas sexuelle du tout, me semble-t-il, moi, mais une tension de spectateur. Enfin, il y a un vrai suspense dans un film qui, tout d'un coup, nous entraîne dans des émotions auxquelles on ne s'attendait pas.
Oui, et la beauté de cette scène, c'est qu'elle a été filmée au clair de lune, sans aucune lumière additionnelle. Et ça, c'est les progrès technologiques qui permettent de faire ce qu'Albert Lewin faisait avec 1000 projecteurs
dans tous les sens. L'atelier de Laurent Cantet, lui aussi, sur les écrans depuis mercredi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute du vendredi soir consacré au cinéma, c'est Kingsman, le cercle d'or, sur la suite de Kingsman, Service secret, qui suivait la formation et l'épanouissement d'un jeune orphelin de père, Exy, dans une officine d'espionnage anglaise ultra secrète. Déjà amoindrie, l'équipe de Kingsman va être quasiment anéantie par une super méchante qui règne sur le narcotrafic mondial.
Exy. I saw in you what someone once saw in me. Something that can't be taught. The makings of a Kingsman. Being a Kingsman is more than the clothing we wear or the weapons we bear. It's about being willing to sacrifice for the greater good. I hope you're ready for what comes next.
End is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. For what is a man? What has he got?
Il en rit encore, Jean-Christophe Briançon, juste à écouter, alors que forcément nous n'avons pas les images, mais vous les avez en tête.
J'en ris encore par le... Voilà, l'outrance kitsch et l'audace outrancière de ce film que j'ai trouvé... J'allais dire remarquable, mais c'est pas le terme, mais en tout cas jouissif, réellement jouissif. Pour poser le décor, on se trouve à priori quelques années après le premier opus, donc toujours dans cette agence d'agents secrets britanniques, agence privée qui est donc a priori en charge de sauver le monde. Rien que ça. Alors là, ce qui a changé, c'est que le personnage emblématique de cette agence, qui est interprété par Colin Firth, se retrouve amnésique et borgne, pendant qu'en même temps, une agence, enfin une organisation concurrente, s'occupe de bombarder le QG de l'agence de Colin Firth, qui s'appelle donc Kingsman. C'est donc l'occasion pour Galahad, qui était le protégé de Colin Firth dans le premier opus, de prendre le relais et de nous emmener dans un espèce de tourbillon de violence absolument jouissif parce que rien n'est réel et tout est assumé comme tel, comme ne devant pas l'être. Donc tout est kitsch, tout est outrancier, tout est gras, tout est laid même, malgré le soin qui est donné à l'image, et ça nous emmène vers un univers qui est particulièrement contemporain, dans la mesure où il se trouve vraiment à cheval entre la BD, dont le film est d'ailleurs une adaptation, entre le film d'action chinois par la chorégraphie des scènes de combat, et puis entre le jeu vidéo aussi. Donc on est à cheval entre tout ça, dans une transe totale, et ça nous emmène donc au cœur d'une espèce de franchise qui s'avère être d'une contemporanéité parfaite. Alors après, le contemporain, on l'aime ou on l'aime pas. Mmh. Ça peut être le problème pour certains, mais en tout cas, c'est remarquable de justesse de ce point de vue-là, dans ce que ça représente d'un certain instant du cinéma. Et ensuite, je trouve que c'est aussi assez habile, puisque sous couvert d'être dans l'outrance, c'est pas non plus c'est pas Austin Powers, quoi. Donc c'est quand même assez intelligent dans la référence et dans ce que ça nous ramène à un certain cinéma aussi d'espionnage des années 70. Moi je trouve qu'il y a un côté ironique et farceur qui nous ramène au James Bond de Roger Moore, où vraiment on se retrouve face à un agent secret en pull jacquard qui peut à tout instant faire atterrir un avion sur un sommet de l'Himalaya. Et je trouve ça du coup assez drôle et assez subtil. Voilà.
Très bien. Antoine Guillot, qui m'envoie chaque semaine, et je m'en réjouis, les chiffres des entrées en salle. J'adore voir votre mail arriver. On ne peut pas dire que ce deuxième opus de Kingsman soit passé inaperçu sur les écrans français. Hein. Ça démarre très très fort.
Eh oui, on a les blockbusters qu'on mérite, sans doute. Ça doit être ça le contemporain.
J'attendais celle-là.
J'aurais adoré avoir, voir le film comme mon collègue. Ça m'aurait permis de moins m'ennuyer pendant ces deux heures, en souffrant énormément des tapants, en plus, en entendant la musique avant la chanson.
À côté de Blade Runner, c'est rien.
Je devais être dans une salle particulièrement...
C'est qu'hier soir, quand j'ai vu Détroit, j'étais à côté pénible. De la salle de Blade Runner 2049, j'entendais les infrabasses tout le long.
Là, voilà, donc il y a de la musique tonitruante tout le temps. Non, ce qui m'ennuie beaucoup, moi, je n'ai rien contre les... Et je suis même assez friand de plaisirs régressifs, du gore, de l'explosion, de l'outrance, mais la vraie. Le problème de ce film-là, il y a eu comme une descente depuis Kingsman. Je trouve ce film extrêmement cynique, en cela qu'il s'appuie sur effectivement la nouveauté qu'avait été le premier, qui était un mélange de chapeau melon et bottes de cuir avec l'outrance, des explosions de tête sans arrêt, des massacres généralisés où tout ça n'était pas important, mais quand même les choses étaient importantes dans le premier massacre, c'était un massacre. Ici, à partir du moment où on est dans un monde de jeux vidéo où on se prend une balle dans la tête, ça n'a aucune importance parce que de toute façon on a un reboot, après on peut réavoir une vie et continuer à vivre, où les combats sont tous mis en scène de la même manière, selon l'esthétique moins du film de Hong Kong que de sa digestion par le jeu vidéo, avec les arrêts comme ça au moment important, ces moments de suspension qui en font des moments d'ennui absolu, parce que le tout étant, c'est censé être des plans séquences qui sont évidemment complètement trafiqués numériquement, où rien n'a d'importance. Ces espèces de robots, de chiens robots complètement grotesques qui arrivent, qui n'ont aucune substance, aucune existence, ne font peur à personne. La pop star, on a le droit de dire son nom, non? Allez. C'est sur les affiches. Elton John, dévitalisé, dont le gag sera de lui faire faire des scènes d'action. On n'est jamais investi à un seul moment pour un film qui évacue ce qui faisait le charme, c'était de voir des personnages so british dans des costumes extrêmement bien faits faire des scènes d'action et faire du massacre, mais ça on les évacue tout de suite, parce qu'il faut quand même investir encore plus le marché américain, donc on va mettre des héros américains qui sont inconsistants, mais au dernier degré, qui avec des lasso laser, qui est un gadget débile, tout ça pour nous
dire... C'est vrai que c'est mieux les sabres laser.
Tout ça pour nous dire, et c'est là que je trouve le film plus embêtant, et c'est là qu'il est, je trouve, complètement faussement transgressif, aucune audace. Il est là d'abord pour nous fourguer tous les produits dérivés du film qui sont affichés comme tels, comme dans un grand supermarché. Vous pouvez vous acheter les costumes, vous pouvez vous acheter tout ce qui est exposé dedans, et aussi pour nous faire passer quand même une pensée, mais on est au-delà du conservatisme, on est dans le rétrograde absolu. Il ne suffit pas de mettre en prison un pseudo Trump dans le film, pour ne pas dire quand même que mettre dans la bouche d'une méchante, Julianne Moore, très méchante, un personnage grotesque là encore, que ça serait quand même beaucoup plus sain de légaliser les drogues parce qu'on meurt beaucoup plus de l'alcool et du tabac, c'est un discours sur lequel on peut réfléchir. Le film est quand même là pour nous dire attention, hein, fumer c'est pas bien, même les petites drogues pas très graves, c'est très 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 dangereux. Par contre, allez-y, buvez de l'alcool, il n'y a aucun problème. Je trouve ça quand même très curieux.
Ah oui, c'est ça que ça vous a raconté.
Bah, c'est ça que ça dit à la fin.
J'ai rien compris, moi. Muriel, je vous dis...
Moi, je suis comme Antoine, je fais partie des gens qui, devant un blockbuster, s'ennuient et ont des acouphènes. C'est vraiment les deux...
Pas tous les blockbusters, devant les mauvais blockbusters, on s'ennuie et on a
des acouphènes. Non, c'est tous les blockbusters, oui, vous laissez dire ce qu'elle veut.
Tous
oui.
Les films, voilà.
Je suis comme Antoine, je voulais quand même rétablir une vérité. J'aime beaucoup les blockbusters quand ils sont bien faits.
Ce que j'ai trouvé
la liste.
Plutôt aimable, c'est le sentiment d'une sorte de rétro-pédalage à l'intérieur du blockbuster, autant d'un point de vue esthétique, avec la culture américaine des années 50, enfin, c'est cette esthétique des diners et tout ça, d'American Graffiti, en gros, puisque Julianne Moore le cite. Et puis, voilà, le dandisme britannique. C'est juste un peu moins laid que Avengers, à mes yeux. Et puis, rétro-pédalage dans la pyrotechnie, au sens où, comme ils n'ont pas de super-pouvoirs et qu'ils n'ont que des gadgets, donc c'est vraiment James Bond, les scènes d'action, qui sont très ennuyeuses, habituellement, et là aussi, sont un peu plus lisibles en termes de mise en scène. C'est-à-dire que beaucoup plus physique. Il y a quelque chose qui... Moi, je m'y retrouve. C'est-à-dire que je vois l'espace, même si je trouve ça assez laid. Donc, ce qui m'a apparu assez sympathique, c'est ce rétro-pédalage, au sens où j'ai l'impression qu'on on revient à une sorte de terroir, et même au niveau du discours, dire la cocaïne, c'est mal, le whisky, c'est mieux. Là aussi, il y a une sorte de retour en arrière qui m'a apparu assez plaisant. Et contrairement à Antoine, voilà, ce moment où... Où, au bout d'une heure et demie à peu près, j'ai senti que qu'on me jetait en pleine figure une sorte de bouillie de pop culture. Je me suis dit, allez, on y va, c'est le stade terminal de la pop culture, plongeons-y la tête. Et ça m'a presque plu, puisque il faut bien, je cherche mon plaisir là où je peux. Et j'ai eu le sentiment que c'était peut-être le seul plaisir que pouvait me procurer Kingsman, c'est ce côté de bouillie pop, sirop de pop culture qui brasse un nombre incalculable de références.
Ah, mais vous venez de dire du bien de Kingsman et les cercles d'or, je ne sais plus comment ça s'appelle, le cercle d'or, Muriel Joudet, si on m'avait dit ça avant l'émission, j'en suis ravi. Moi j'avais beaucoup aimé le premier Kingsman, que j'avais trouvé extrêmement efficace, avec ce qu'il faut d'humour, avec ce qu'il faut d'action. Bon, qui avait évidemment pour vocation de ringardiser James Bond, et je trouvais qu'il y réussissait pas mal. Le deuxième volet, comme souvent, c'est quand même moins réussi que le premier, mais j'y trouve encore pour partie mon compte. Moi, je fonctionne pas mal à l'adrénaline qui est proposée par le film. Moi, je me demande comment vous pouvez vous ennuyer, mais je l'entends, hein, absolument. J'étais très heureux de retrouver Pedro Pascal, votre ami au lasso laser. Comme j'étais en train de regarder Narcos, que j'avais jamais vu, j'étais heureux de revoir un de mes personnages chouchous de cette série. Il lui arrive des tas de choses, mais il a ce côté, effectivement, Burt Reynolds de 2017, qui est quand même assez fascinant au point de vue physique. Il amène quand même une belle chose dans la fiction. Et puis, il y a quand même, je veux bien que ce soit contre les drogues et pour dire que le whisky c'est bien, mais c'est quand même surtout quelque chose sur l'hyper-consumérisme qui est traité ici. Et quand dans le premier épisode, le mal se communiquait par les téléphones portables, là c'est par l'usage que tout le monde peut faire. De la drogue, du plus bas niveau de la société jusqu'au plus haut. C'est pas complètement absurde comme propos. Antoine Guillaume, on n'a pas le temps d'en disserter beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite.
Non, mais c'est vrai, les enfants ne fumaient pas, picolaient.
Ah non, mais ouais, d'accord, c'est pour dire ça. Jean-Christophe Briançon.
Sur ce qui est du.
Non, moi j'aurais rajouté juste quelque chose. Parce que c'est peut-être vite, parce alors. Que je vieillis, mais les exécutions sommaires sur la. Dans ces films-là, et en particulier dans celui-ci, me posent beaucoup de problèmes. Mais en tout, ça tout à fait normal, donc il n'y a aucun souci. Et votre côté. Film sur le consumérisme, mais c'est un film lui-même qui incite.
Mais moi, je vois pas ce qu'il y a à acheter du film.
Parce que vous ne savez pas que tous ces costumes ont été faits par un couturier, sont mis en vente, extrêmement cher. Vous pouvez acheter les gadgets, vous pouvez acheter tout. Tout a été conçu. Au départ, vous aurez une version sans danger. Ouais.
Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ce film, justement.
C'est un film.
Non, mais c'est un film qui accepte, ou en tout cas qui nous hurle au visage qu'on est en train de vivre une certaine forme de fin du monde, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, puisque c'est la fin du monde, allons-y gaiement.
Voilà, c'est le mot de la fin.
Je voulais juste ajouter un truc sur le conservatisme. Un truc qui m'a particulièrement déplu en l'occurrence sur ce film, c'est la position qu'occupent les femmes, puisque en l'occurrence il y a trois personnages importants, une hystérique ultra violente, une jeune femme qui se fait insérer un tracker GPS dans le vagin, et une autre qui est juste une, on va dire, une secrétaire de luxe. Ouais, je trouve ça très dérangeant qu'elles occupent seulement ces trois places là.
Bon, vous finissez sur une note critique pour Kingsman, le cercle d'or de Matthew Vaughn, sorti mercredi. On conclut très en vitesse avec le jeu de la dispute, ça s'appelle comme ça, Grégoire Difiore et la question d'hier soir.
Qui a écrit « Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile et le beau souvent nous détruit ».
La réponse était...
Jean de La Fontaine.
Ce soir, invitation pour la FIAC à gagner. La FIAC a lieu du 19 au 22 octobre au Grand Palais à Paris. Quelle est la question ?
Quel est le nom de l'œuvre censurée par la FIAC au début du mois en raison de sa connotation sexuelle ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de lundi à poster sur la page Facebook La Dispute FC ou dès maintenant ou en direct lundi soir sur le compte Twitter Dispute FC. Lundi donc à 19h, dispute spectacle vivant avec Fabienne Pascaud, René Solis et Jean-Christophe Briançon. À notre affiche Democracy in America, Roméo Castellucci, non je me trompe, c'est pas vous, d'accord Jean-Christophe.
J'espère pas parce que
vous n'avez pas vu Democracy in America. Roméo Castellucci, le poète aveugle de Ian Lowers, non. Vous avez vu un album de Laetitia Doche, vous pourrez passer.
Je vais voir Démocratie Américaine dimanche.
Nous en parlons.
Si ça intéresse quelqu'un.